Le journal vous est présenté par Julie Smul. Bonsoir Julie.
Bonsoir. Aucun signe d'apaisement ce soir au Proche-Orient. Les bombardements israéliens continuent de répondre aux tirs de roquettes palestiniens. Plusieurs morts de chaque côté et Netanyahou qui ordonne à son armée de continuer à frapper massivement. Une voiture retrouvée vide, un corps qui est peut-être identifié ce soir et toujours ces trois hommes portés disparus au Bénin, deux Français et leur guide. Le Quai d'Orsay reste très prudent, on va essayer d'en savoir plus dans ce journal avec le service international de France Inter. On reviendra sur la polémique de la jupe, jupe qui aurait poussé un conducteur de bus parisien à empêcher une jeune fille de monter à bord. Et puis dans un quart d'heure, le journal des sports avec le choc de ce soir en Ligue 1, le troisième Lyon qui accueille le second Lille.
France Inter.
17 morts côté palestinien, 3 côté israélien. La liste des victimes s'allonge et les bombes israéliennes continuent de tomber sur la bande de Gaza. Réponse aux tirs de roquettes palestiniens. Le Proche-Orient connaît ces dernières 48 heures une escalade rapide et inquiétante de violence. L'Europe demande une nouvelle fois ce soir l'arrêt immédiat des tirs palestiniens. Marine Vlaovic, vous êtes à Ashkelon, au sud d'Israël pour France Inter. Une ville, Marine, toujours en alerte ce soir.
Oui, hein, et je me trouve en ce moment dans un abri anti-aérien en compagnie d'habitants, puisque ici dans la ville israélienne la plus importante à proximité de la bande de Gaza, quelques kilomètres seulement, les sirènes d'avertissement de tirs de roquettes n'arrêtent pas de retentir depuis une heure. À Ashkelon, 3 personnes en tout ont succombé à leurs blessures aujourd'hui après avoir été atteintes par des débris de missiles. On peut aussi entendre au loin les bombardements israéliens sur la bande de Gaza, car tout au long de l'après-midi, Israël a intensifié ses frappes sur l'enclave palestinienne en visant de nombreuses positions militaires du Hamas et du djihad islamique. L'armée israélienne affirme même avoir tué un membre important du Hamas, responsable selon l'État hébreu de transferts de fonds iraniens à destination de la bande de Gaza. C'est une rare revendication d'élimination ciblée. Sa mort a été confirmée par la branche armée du mouvement islamiste, qui l'a qualifié de lâche assassinat, éloignant ainsi un peu plus la perspective d'un cessez-le-feu immédiat. Et alors que les sirènes d'alerte, comme vous pouvez peut-être l'entendre derrière moi, retentissent ici encore à Ashkelon.
Marine Vlaovic en direct pour France Inter. À Moscou, un avion est en feu en ce moment. Il y a des victimes, au moins 4 morts d'après la presse russe. Un avion qui avait décollé à destination de Mourmansk. Il a dû revenir pour un atterrissage d'urgence. L'un de ses moteurs était en feu. L'avion s'est posé. Une partie de la carlingue s'est embrasée. La majorité des passagers a pu être évacuée. Saïd Bouteflika, le puissant conseiller et petit frère de l'ancien président, est placé ce soir en détention provisoire en Algérie. Incarcéré aussi les deux ex-patrons du renseignement arrêtés en même temps que lui hier. Ils sont tous les trois poursuivis pour atteinte à l'autorité de l'armée et pour complot contre l'autorité de l'État. Le Quai d'Orsay ne parle toujours pas d'un enlèvement ce soir, alors que 2 touristes français sont portés disparus depuis mercredi au Bénin. Hier matin, le corps d'un homme a été découvert sur les berges de la rivière, rivière qui fait office de frontière avec le voisin, le Burkina Faso. On sait très peu de choses ce soir sur ce qui a pu se passer sur place avec nous pour essayer d'y voir un petit peu plus Claire, Éric Biégala du service international de France Inter, bonsoir.
Bonsoir Julie.
Alors Éric, tout simplement, de quoi on est sûr ce soir dans cette affaire ?
Eh bien que 3 personnes ont bel et bien disparu. Hein. 2 touristes français, 2 hommes et leur guide. Ils étaient partis dans le nord-est du parc de la Penjari pour essayer de voir des lions et ne sont pas rentrés à leur hôtel mercredi soir. Depuis, on est à leur recherche. Alors un corps a été retrouvé hier matin, vous l'avez dit, sur les rives de la Penjari, mais il serait difficilement identifiable selon l'un des collègues du guide disparu, joint tout à l'heure au téléphone. Ce corps retrouvé est en très mauvais état, dégradé par des charognards, difficilement identifiable visuellement en tout cas. Quant au véhicule qui transportait les 3 hommes, un 4x4 Toyota blanc, un tel pick-up a bien été retrouvé, vide, mais toujours selon le collègue du guide enlevé et joint au téléphone, il ne s'agirait pas forcément du véhicule conduit par le trio disparu.
Alors Eric, ça reste quand même une disparition inquiétante, d'autant plus inquiétante que juste au nord de là où se trouvaient ces 3 hommes, au Burkina Faso, la situation sécuritaire, elle s'est largement dégradée ces derniers mois.
Oui, les groupes djihadistes qui ont fait leurs armes au Mali et tous plus ou moins issus d'Al-Qaïda au Maghreb islamique ont essaimé sur le Burkina Faso, dans le nord du pays dans un premier temps, et plus récemment dans l'est sur la frontière nigérienne, et puis dans le sud sur la frontière du Ghana, du Togo et du Bénin. Dans certains villages, ces groupes djihadistes paradent en ville tout armés, ils font régner leur loi, une loi telle qu'on a pu la connaître à Raqqa ou à Mossoul, du temps de l'État islamique, cigarettes et bières sont interdits, la prière 5 fois par jour à la mosquée est obligatoire, des groupes qui s'attaquent aussi violemment aux représentants de l'État burkinabé, comme les enseignants, 5 enseignants ont ainsi été assassinés en novembre dans une province frontalière du Bénin. Et puis il y a les attaques sur la route de Pama, là aussi, c'est juste de l'autre côté de la frontière béninoise. Attaque opérée à l'explosif avec des engins improvisés mais très puissants, visant et détruisant même parfois les véhicules blindés de l'armée burkinabé. Attaque qui rappelle le modus operandi des groupes tels que l'État islamique.
Et des enlèvements d'étrangers, il y en a eu déjà également dans le secteur.
Oui, les enlèvements sont fréquents, de nombreux enseignants en ont fait les frais, certains ont été assassinés dans la foulée. Quant aux étrangers, un couple de touristes italo-canadiens a été enlevé en décembre, à proximité de la frontière béninoise, on n'a plus eu de nouvelles d'eux. Et puis quelques semaines plus tard, en janvier, c'était un géologue canadien qui était enlevé à son tour dans l'est du pays. Lui, son corps avait été retrouvé 48 heures après le kidnapping, et l'État islamique avait revendiqué l'assassinat dans l'un de ses médias en mars dernier.
Éric Biégala du service international de France Inter, merci pour ces précisions.
Le journal de 19h sur France Inter.
C'est ce soir confirmé, une procédure judiciaire est bien ouverte contre l'un des chauffeurs d'Emmanuel Macron. Il aurait refusé d'obéir aux policiers qui voulaient le contrôler après un excès de vitesse près de Paris fin février. Une information sortie par Mediapart est confirmée ce soir par l'Élysée. L'Élysée qui précise que cet homme est écarté de ses fonctions de chauffeur mais qu'il reste pour l'instant affecté à la sécurité du président de la République. À Paris, un chauffeur de bus de la RATP, lui, est suspendu. Il est soupçonné d'avoir refusé de laisser monter à bord une jeune fille parce qu'elle portait une jupe. La régie des transports parisiens ouvre une procédure disciplinaire, Faustine Moheran.
Ce chauffeur embauché depuis 4 ans à la RATP et qui n'avait jamais fait parler de lui a été auditionné hier par sa hiérarchie, explique la RATP dans un communiqué. Il ne reconnaît pas les faits tels qu'ils ont été présentés par le père de la jeune femme, donc cette fameuse histoire de jupe et cette phrase « t'as bien t'habillé » qu'il aurait lancée pour se justifier. Mais il admet ce que la RATP appelle une faute de service, c'est-à-dire qu'il reconnaît avoir refusé d'ouvrir les portes de son bus à deux jeunes filles à une heure tardive à la station Botzaris. Dans ce contexte, d'après nos informations, ce chauffeur aurait été suspendu et la RATP a décidé d'ouvrir une procédure disciplinaire qui pourra aller jusqu'à la révocation si les faits s'avèrent vrais. Pour le savoir, et puisqu'aucune plainte n'a été déposée auprès de la police pour l'instant, la régie prolonge son enquête interne. Elle demande notamment au père de la jeune femme de venir dresser un témoignage officiel et compte toujours sur son appel à témoins lancé samedi matin sur son compte Twitter.
Garde à vue prolongée pour les trois sapeurs-pompiers de Paris soupçonnés de viol en réunion. Des faits qui remonteraient à la nuit de vendredi à samedi. Il y aurait plusieurs victimes que les pompiers rencontrent d'abord dans un bar avant de les emmener dans leur caserne, celle de Plaisance, dans le 14e arrondissement. Les trois hommes n'étaient pas ce soir-là en service. Ils sont interrogés par la police depuis hier matin. Dans l'affaire Vincent Lambert, la ministre Agnès Buzyn affirme aujourd'hui que la France n'est pas tenue légalement de respecter la demande du comité de l'ONU, le comité des droits des personnes handicapées qui demandent le maintien provisoire des soins. Nous allons leur répondre, dit la ministre, sous 6 mois. Vincent Lambert se trouve depuis 10 ans dans un état végétatif après un accident de la route. Il y a 2 semaines, le Conseil d'État avait jugé légal l'arrêt des soins. Les discussions se poursuivent ce soir à Metz, autour de la table jusqu'à demain après-midi. Les ministres de l'Environnement du G7 et au centre des mesures à prendre et rapidement pour protéger la biodiversité. Les ministres promettent du concret. Pendant ce temps-là, dehors, on entend les cris des militants qui, eux, dénoncent une mascarade, François Pelleret.
Mais c'est une ville avec un noyau impossible à approcher derrière la gare, entre le centre des congrès et le centre Pompidou. En dehors de cette zone rouge, protégée par 2600 policiers et gendarmes, des militants écologistes tentent de maintenir la pression. Une petite cinquantaine d'entre eux sont repassés à l'action ce matin. Ils ont joué une scène de catastrophe naturelle en pleine rue pour dénoncer, je cite, la mascarade des dirigeants. L'une des deux secrétaires d'État à la transition écologique, Emmanuel Vargon, leur répond oui, c'est sûr, le G7 de Metz ne sera pas déterminant, mais la prise de conscience gagne du terrain. Emmanuel Vargon l'assure, elle qui a travaillé chez Danone, les patrons ont intégré cette notion d'urgence climatique. Alors au menu des discussions, on nous promet des initiatives concrètes, comme ces gaz de climatiseurs très polluants. Si ces appareils qui envahissent le monde étaient plus performants, on pourrait échapper à 1 degré d'augmentation de la température mondiale. Demain, les pays qui le souhaitent pourront adopter une charte, rien de contraignant. Et puis tout le monde se donnera rendez-vous fin août à Biarritz pour le grand G7 et on verra si l'on reparlera encore de Metz.
Les précisions de François Pelleret. Un commissariat va rester fermé pendant 48 heures à cause d'une invasion de puces. Ça se passe dans le 19e arrondissement de Paris. Tout le bâtiment doit être désinfecté. Le syndicat Alliance dénonce des conditions de travail inadmissibles pour les policiers. Plusieurs ont dû consulter un médecin après avoir été mordus. Près de Cergy-Pontoise, en région parisienne, là c'est une bactérie qui provoque la fermeture de 2 piscines. Celle de la Ravinière à Ony et celle des Louvrais à Pontoise. Elles vont rester fermées, ces piscines, une semaine jusqu'à dimanche prochain, le temps de nettoyer le réseau interne d'eau chaude. La bactérie est une bactérie de type légionnelle. Elle peut provoquer des symptômes qui ressemblent à ceux d'une grippe. Une opération péage gratuite pendant quelques heures cet après-midi sur la 10, au niveau de Saint-Arnoult en Yvelines, près de Paris. Opération menée par une cinquantaine de gilets jaunes pour dire stop, je cite, aux raquettes de Vinci. Une action qui a provoqué un gros ralentissement sur cette autoroute alors que les Franciliens rentrent ce soir de vacances. On fera le point sur vos conditions de circulation à la fin de ce journal avec le PC Mobilité de Radio France. La tête de liste En Marche Modem pour les Européennes, Nathalie Loiseau, était ce midi notre invitée sur France Inter. Elle a commencé à dévoiler son programme et notamment son plan d'investissement. 1000 milliards d'euros qu'elle souhaite voir consacrés en Europe d'ici 2024 à la transition écologique. Pour ça, la candidate veut orienter de toute urgence l'épargne des Européens vers les énergies propres.
Plus part, le budget européen doit consacrer au moins 40% de ses dépenses à la transition écologique. Qu'il s'agisse de l'agriculture, qu'il s'agisse de l'industrie, qu'il s'agisse de la capacité, par exemple, à financer, à aider la recherche sur les énergies propres. Mais on ne fera pas tout avec de l'argent public, parce que si on fait tout avec de l'argent public, comme certains le proposent, on laissera à nos enfants la dette écologique et la dette financière en même temps. 1000 milliards, c'est un chiffre qui a été évalué par l'Union européenne. Ça signifie qu'il faut que l'épargne des Européens s'oriente enfin vers la transition écologique. Aujourd'hui, c'est 1% de l'épargne européenne qui finance la transition écologique.
Comment vous faites concrètement ?
Avec une Banque européenne du climat qui soutient les prêts, avec des prêts garantis, avec des prêts à taux préférentiel, pour qu'enfin les banques soient derrière les énergies renouvelables, derrière l'isolation des logements, derrière les transports propres, derrière tout ce qui fait qu'on sera au rendez-vous de la transition écologique, qui est la première urgence en Europe.
Nathalie Loiseau, et vous avez un sondage sur les intentions de vote des Français aux Européennes, que vous pourrez retrouver dans moins d'une heure à 20h sur Internet et sur France Inter, sur Internet franceinter.fr. Plus de vigilance orange au vent violent dans le sud de la France, mais toujours 5 départements en jaune, de l'Isère aux Bouches-du-Rhône en passant par la Drôme. La Drôme où 1500 foyers sont toujours privés d'électricité. Retour à la normale prévu dans la soirée, d'après Enedis qui est en train d'intervenir. Des rafales jusqu'à 150 km/h enregistrées cet après-midi dans le Vaucluse. Ça souffle toujours fort ce soir près de la Méditerranée. Conséquence, un incendie aujourd'hui dans le Var, sur le mont Faron, au nord de Toulon. 3 hectares détruits, une centaine de pompiers déployés. Le feu est ce soir contenu. Le vent qui a peut-être provoqué la mort de cette touriste allemande de 60 ans aujourd'hui en Corse du Sud. Elle est tombée des rochers sur la plage de Porto à Ota, à l'ouest de l'île. Avant le vent, il y a eu la neige hier, assez rare quand même en France, au début du mois de mai. Quelques flocons qui sont tombés des Pyrénées jusqu'en Franche-Comté. Plusieurs centimètres se sont accumulés par exemple sur les hauteurs du Pilat dans la Loire. Pas de quoi pour autant déstabiliser les habitants de la petite ville de Saint-Genès-Malifaux qui ont clairement l'habitude, Mathilde Montagnon.
Les prés sont tout blancs. Dans les rues, certains habitants ont ressorti les pantalons de ski. Livio et Anna sont tout excités.
La neige !
T'aimes bien la neige ou pas ?
Oui, la neige !
Moi aussi !
On fait des boules de neige !
C'est quoi d'autre ?
On fait de la neige !
Leur papa, José, habite sur le plateau depuis plusieurs années, pas surpris par ses giboulées.
C'est pas étonnant, jusqu'au Sainte-Glace, de toute façon, hein, jusqu'au à peu près entre le 11 et le 15, je crois qu'il y a les Sainte-Glace. Tout peut arriver en fait. Et c'est le cas aujourd'hui. Ce qui étonne, c'est qu'on a eu vachement de redoux. Et que là, d'un seul coup, on a des baisses de température, mais je crois que c'est un peu général. Hein.
Alors il faut prendre ses précautions, selon Clément, et ne pas croire trop vite que le printemps est arrivé.
On est un peu rodé là sur le plateau. On a encore nos pneus neige, voilà, jusqu'au 10 mai, on sait qu'on peut y avoir le droit, quoi.
Attendre la mi-mai et les fameux seins de glace pour faire le jardin, une tradition pour Monique.
À 1000 mètres d'altitude, c'est normal. On vit avec le temps, toujours. Les gens de la campagne, c'est comme ça.
Et puis tous les ans, c'est la même chose, rappelle Dominique, né à Saint-Genès-Malifaux, il y a 67 ans.
Il y a 2 ans, on avait 30 cm le 1er mai, je crois. Donc c'est pas nouveau. Et puis moi, je vois ma mère, elle était née un 9 mai, en 1926. Eh bien, j'aurais venu la baptiser en traîneau.
Pas de traîneau, pour le moment, mais des chaussures bien chaudes sont quand même nécessaires.
Le reportage de Mathilde Montagnon de France Bleu, Saint-Étienne-Loire, pour France Inter. La route.
Point route avec les cours Legendre. Cours à domicile, stages de révision et cahiers de vacances par des professeurs de l'éducation nationale. Info cours-legendre.fr.
La route avec Armel Balogog du PC Mobilité de Radio France. Bonsoir Armel.
Bonsoir.
Et il y a un gros bouchon en ce moment en Seine-Maritime.
Et oui, la circulation est compliquée sur les autoroutes A150 et A151 en direction de Rouen. Il y a du monde sur la route et en plus un accident ralentit beaucoup le trafic. Comptez une heure pour parcourir 4 km en amont de l'incident et le dépasser. Et puis il y a du monde qui rentre en Ile-de-France, notamment depuis Le Mans via l'autoroute A11 en orange sur nos cartes et sur l'A10 depuis Orléans. Mais le pic de bouchons de la soirée est déjà passé. Il n'y a plus que 60 km d'embouteillage en Ile-de-France. C'est quasiment moitié moins que la moyenne à cette heure-ci.
Merci Armel Balogog en direct du PC Mobilité de Radio France.
La météo avec Air France. Et la France est plus proche. Envolez-vous du nord au sud et de l'est à l'ouest en moins de 2 heures. Rendez-vous sur airfrance.fr.
La météo, c'est avec vous Jean-Michel Golinski.
Un vent beaucoup moins fort demain en Méditerranée. Il va d'ailleurs commencer à bien faiblir en cette fin de journée. Et demain, le Mistral ne dépassera pas 70 km à l'heure et 50 pour la Tramontane. Si le ciel, d'une manière générale, va s'améliorer, les températures vont à nouveau passer en fin de nuit sous la barre des gelées, vers 0, moins 3 degrés. Gel nocturne assez largement répandu, sauf sur les zones littorales. Dans le courant de l'après-midi, les maximales vont commencer à remonter en affichant généralement 2 à 3 degrés de plus qu'hier, avec dans l'ensemble une journée de lundi assez bien ensoleillée, avec juste un voile nuageux sans grandes conséquences sur les régions du proche Atlantique, et un ciel parfois plus variablement nuageux dans le Grand Est et au nord de la Seine, avec éventuellement une ondée possible l'après-midi près de la Belgique et de l'Allemagne.
Vous écoutez France Inter, il est 19h16, c'est l'heure du journal des sports. Bonsoir Jean-Pierre Bimaud.
Bonsoir Julie.
Avec la Ligue 1 de football, on s'approche de la fin du championnat. Et en attendant le choc entre Lyon et Lille ce soir, Saint-Étienne a fait très fort tout à l'heure.
Oui, car les Verts se sont imposés 3-2 à Monaco, un résultat très important pour l'AS Saint-Étienne qui permet aux joueurs de Saint-Étienne de dépasser Lyon au goal average et de s'installer sur la 3e place du championnat provisoirement avant le match de Lyon contre Lille à 21h. On va en reparler. En attendant, Dominique Poulain, vous avez suivi ce match entre Monaco et Saint-Étienne. Les Verts vainqueurs, mais les Verts qui reviennent de loin.
Dans un match engagé, Monaco vire logiquement en tête à la pause grâce à un but de Gelson Martins à la 18e minute. Monaco aurait pu aggraver le score si Ruffier n'avait pas repoussé deux grosses tentatives de Falcao. Les Stéphanois, eux, sont méconnaissables. Aucun tir cadré en 45 minutes. En seconde période, Saint-Etienne est tout heureux d'égaliser à la 59e minute sur une erreur de la défense monégasque. Sur un centre anodin de Cabella, Balotouré veut dégager le ballon mais trompe son gardien Sidoussi qui avait remplacé en toute fin de première période Subasic blessé. Après ce coup du sort, Monaco tente de repartir de l'avant mais Saint-Etienne reprend confiance et prend l'avantage 12 minutes plus tard sur une reprise de volée de Cabella. Les Monégasques n'y sont plus et les Verts en profitent pour inscrire un troisième but par Nordin à 10 minutes de la fin. En toute fin de rencontre, Vinicius réduit le score pour Monaco mais Saint-Etienne s'impose finalement 3-1 et peut continuer à rêver de Ligue des Champions. Monaco, Dominique Poulain, France Inter.
Voilà, une victoire, donc 3-2 pour l'AS Saint-Etienne qui donc s'impose et prend la 3e place provisoirement à Lyon qui jouera donc tout à l'heure contre Lille. Il y avait d'autres matchs cet après-midi puisque Nantes a battu Dijon 3-0. Mauvais résultat pour les Dijonnais qui restent 19e et relégable à 2 points du barragiste Caen. Montpellier et Amiens ont fait match nul 1-1. Montpellier pensait avoir gagné mais un but d'Andy Delors à la toute fin du match a été refusé par l'assistance vidéo pour un hors-jeu. Et puis, il y a eu le match spectaculaire à Toulouse, entre Toulouse et Rennes. Le score final est de 2-2.
Et donc, ce soir, à 21h, on y vient, Jean-Pierre, Lyon reçoit Lille. Duel pour la 2e place.
Oui, le PSG est champion depuis longtemps, mais la lutte est engagée pour la place de Dauphin. Alors, avantage à Lille, qui possède pour le moment 6 points d'avance sur les Lyonnais. Et donc désormais sur Saint-Etienne, j'espère que vous suivez bien Julie. Un Noël toutefois requinqué depuis que l'entraîneur Bruno Genesio a confirmé son départ après la fin de saison. Pour autant, ce dernier veut absolument finir le travail et tenter coûte que coûte de rejoindre Lille pour accrocher cette fameuse 2e place, Christophe Vincent.
C'est un choc avec comme enjeu la Champions League. Et pour l'instant, Lille ne faiblit pas et mérite sa 2e place, celle qui offre la qualification directe. L'entraîneur du LOSC, Christophe Galtier.
Si nous l'emportons, on aura fait plus qu'un grand pas vers la 2e place. Un match nul aussi serait un bon résultat. Mais s'il y a défaite, nous, on aura encore 3 matchs. Par contre, s'il y a défaite de l'autre côté, on aura réussi le coup, nous. Ce match revêtent une importance pour les deux équipes, mais ce match-là, pour nous, n'est pas capital.
Pour calmer ses détracteurs, les ultra-supporters, et apaiser l'ambiance, l'entraîneur lyonnais Bruno Genesio quittera son poste en fin de saison. Mais d'ici là, il garde son objectif, conforté par les deux victoires contre Angers et Bordeaux.
On va encore monter d'un cran et on va voir si on est complètement guéri. Je ne peux pas faire plus que ce que j'ai fait, à part me mutiler. Donc, union sacrée ou pas, il faut gagner. Moi, ce que j'attends, c'est que mes joueurs soient au niveau comme ils l'ont été depuis deux matchs pour aller chercher cette qualification en Champions League à la fin de saison.
Entre l'OL, roi du sprint final, et Lille, dauphin légitime du PSG, tout reste possible.
Christophe Vincent à Lyon donc pour France Inter et Lyon-Lille, c'est ce soir à 21h.
Le foot, c'est aussi cette confirmation aujourd'hui, Jean-Pierre, confirmation qui nous vient d'Allemagne. Franck Ribéry va quitter le Bayern Munich à la fin de la saison.
C'était dans l'air, hein, mais l'ancien attaquant de l'équipe de France qui s'était installé en 2007 après son passage à Marseille à Munich, eh bien, va donc quitter le club. Confirmation aujourd'hui. Franck Ribéry s'est d'ailleurs exprimé dans une vidéo tournée par le club avec ces mots très forts. Hein. Quand j'ai rejoint la Bavière, un rêve est devenue réalité et l'adieu ne sera pas facile. Et c'est vrai que Franck Ribéry et le Bayern, c'est aussi un palmarès prestigieux. 8 titres de champion d'Allemagne, 5 coupes d'Allemagne et surtout la Ligue des champions remportée en 2013. La question est de savoir maintenant si Franck Ribéry pourra rebondir ailleurs ou pas, ou si eh bien, ce départ du Bayern sera sa fin de carrière, comme on dit, affaire à suivre.
Du rugby maintenant avec le top 14 et après le carton de Toulouse qui a passé hier 83 points à Pau. Il y avait deux matchs aujourd'hui, dont le derby de la région parisienne.
Et un derby que le Stade français a remporté 27-23. Le Racing perd une nouvelle occasion de se rapprocher de la phase finale. Et à l'inverse, l'espoir demeure pour le Stade français au Racing 92, Jérôme Val.
Et c'est le scénario presque rêvé pour le Stade français qui ne pouvait pas se permettre d'encaisser une 12e défaite cette saison. Les Parisiens reviennent à 4 petits points des places qualificatives après un match âpre. Et à 2 journées de la fin de la phase régulière, ils peuvent encore croire à la faveur d'un concours de circonstances favorables à une qualification qui les fuit depuis 4 ans. Incisif, déterminé, le Stade français n'a pas tremblé dans ce derby, notamment en début de deuxième période, alors en supériorité numérique. Les joueurs de la capitale ont su en profiter pour marquer 2 essais et prendre le score à leur avantage, un avantage qu'ils n'ont plus lâché. Rien donc n'est fait pour le Stade français, rien n'est fait non plus pour le Racing 92 qui reste 6e au classement et qui avait une occasion en or cet après-midi de s'accrocher à une place de barragiste à domicile. Mais cette 5e défaite de la saison dans l'Arena de la Défense confirme ce que l'on pressentait depuis plusieurs semaines. Les Franciliens sont très très loin de leur meilleur niveau. À Nanterre, Jérôme Val, France Inter.
Et donc la victoire du Stade français sur le terrain du Racing 92. Un peu plus tôt dans l'après-midi, Lyon a battu Bordeaux 34-10. Les Lyonnais ont pratiquement assuré leur qualification pour les barrages.
France Inter. La Ligue des champions de handball maintenant avec ce match incroyable cet après-midi à Paris pour les quarts de finale retour.
Après l'élimination de Nantes battue hier soir de 3 buts à Barcelone, le PSG handball avait une mission très difficile, quasi impossible. Remonter 10 buts face aux Polonais de Kielce. Bonsoir Xavier Monferrand.
Bonsoir Jean-Pierre.
Le PSG handball est passé tout près de l'exploit.
Tout près de l'exploit, effectivement. Ils l'ont même touché du doigt. À même un moment, en fin de match, ils étaient qualifiés pour ce Final Four à quelques minutes du terme de la rencontre parce que c'était assez incroyable. En fait, Paris était favori de ce quart de finale. Il fallait battre Kielce pour rejoindre Cologne. Mais au match aller, patatras, les Parisiens ont perdu de 10 buts. Il leur fallait remonter donc ces 10 buts au match retour et on savait qu'ils en étaient capables, même si c'est mission impossible. Et ils l'ont fait jusqu'à même mener de plus 11. Oui, mais voilà, la fin de match a été plutôt pour les Polonais. Et Paris ne s'est imposé que, entre guillemets, de 9 buts. Et ce sont donc les Polonais de Kielce, champions d'Europe en 2016, qui fileront donc dans ce Final Four de Ligue des Champions. Il n'y aura pas de 4e Final Four d'affilée pour le PSG handball.
Et au-delà de cela, l'an dernier, il y avait 3 équipes françaises dans ce fameux Final Four, donc les demi-finales. C'est 0 cette année, c'est une catastrophe pour le hand français ?
C'est assez dingue, en effet, de voir. Alors, c'était une exception l'an dernier, quelque chose d'assez exceptionnel au sens propre du terme, avec la qualification l'an dernier de Montpellier, Nantes et le Paris Saint-Germain. Paris, d'ailleurs, s'était plutôt raté dans ce Final Four. Il avait terminé 3e, contrairement à Nantes et Montpellier, surtout qui avaient terminé en finale l'un face à l'autre. Montpellier a eu du mal à digérer ce titre de champion d'Europe et donc du coup a une saison galère, notamment et surtout en Coupe d'Europe. Pour Nantes, c'est pas passé à beaucoup, mais l'équipe était un peu moins, on va dire, un peu moins forte que l'an dernier sur la scène européenne et peut-être a eu un parcours plus compliqué. Mais pour le PSG Handball, c'est une vraie désillusion parce que clairement, ils étaient favoris pour l'emporter cette saison.
Merci Xavier Monferrand, direct de Coubertin, donc où le PSG Handball a donc été éliminé par les Polonais de Kielce et malgré une victoire de 9 buts cet après-midi.
Le championnat du monde de moto de vitesse avec le Grand Prix d'Espagne, le Grand Prix qui s'annonçait prometteur pour le clan tricolore, mais il a tourné court pour le jeune Fabio Quartararo.
À peine 20 ans, il avait réalisé hier la pole position, établissant un nouveau record de précocité en moto GP. Et puis le rêve a tourné court à 11 tours de l'arrivée. Fabio Quartararo a abandonné, victime d'un problème qui a touché le sélecteur de la boîte de vitesse sur sa Yamaha d'usine. Fabio Quartararo a fini en pleurs, mais il s'est remis tout de même et a expliqué sa mésaventure à nos confrères de Canal+.
Oui, c'était un très bon début de course, même excellent. On est parti troisième, on a réussi à maintenir le rythme des hommes de devant. Je m'y attendais sur le début, mais surtout me sentir aussi bien, on va dire, dans le milieu de course où même j'ai réussi à doubler Franco et je me sentais vraiment à l'aise. Et malheureusement, on a eu un petit problème avec le sélecteur de vitesse. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous a coûté cher, mais on a montré qu'on pouvait être là. J'étais vraiment à l'aise sur la course, j'étais vraiment à l'aise et j'aurais pu encore, on va dire, pousser un petit peu plus. Mais voilà, c'est quelque chose qui nous a coûté cher, mais je suis content de me battre avec les hommes de tête.
Fabio Quartararo aujourd'hui et Johan Zarco, l'autre Français présent sur sa KTM d'usine, lui a réalisé le 18e temps des essais. Il a fini 14e, la victoire est revenue à l'Espagnol Marc Marquez. Le prochain Grand Prix, c'est en France, au Mans, le week-end du 17, 18 et 19 mai.
Et en tennis, c'est Roland Garros qui s'approche à grands pas. Les meilleurs joueurs de la planète se retrouvent à Madrid, parmi eux Roger Federer.
Le Suisse qui n'a plus joué sur terre battue en compétition depuis 3 ans, c'était à Rome en 2016 et cette année, il a choisi de revenir sur terre et donc de participer à Roland Garros. Alors, grand sourire du côté des organisateurs avec en tête le patron du tournoi, Guy Forget. Ce dernier croit dur comme fer que Roger Federer, actuellement 4e joueur mondial, a toutes ses chances de bien figurer sur terre à l'occasion de son retour et même s'il n'a pas joué depuis 3 ans.
Je pense pas que c'est un pari. Vous savez, Roger Federer a trop d'expérience aujourd'hui et trop fort et a un classement qui lui permet d'envisager n'importe quel match de tennis, quelle que soit la surface, avec beaucoup de sérénité. Il s'entraîne sur terre battue depuis maintenant pas mal de temps. Il sera à Madrid justement pour se tester avant d'arriver à Roland Garros. Mais je peux vous garantir qu'il va venir ici à Paris avec de grosses ambitions. Quand on a ce classement-là, quand on a déjà gagné à Roland Garros, après Rafael Nadal, c'est peut-être le joueur sur les 15 dernières années qui a gagné le plus de matchs sur terre battue. Forcément, il vient ici pour frapper un grand coup et je suis sûr qu'il y a des milliers de fans français qui auront hâte de le retrouver à Paris.
Guy Forget, le directeur du tournoi de Roland-Garros. Alors Roger Federer entrera en lice mardi à Madrid. Il pourrait affronter Richard Gasquet puisque Richard Gasquet jouera avant cela devant l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina, vainqueur de Wimbledon Junior en 2017. Côté féminin, bonne journée à Madrid pour Kristina Mladenovic qui a battu la Tchèque Strikova, pour Pauline Parmentier qui a sorti l'Ukrainienne Svitolina. Et depuis 19h, Alizé Cornet affronte la Danoise Wozniacki et elle mène 3-0.
C'était le journal des sports de Jean-Pierre Bimaud.